Quatrième instruction.
Alors, le mystère de la croix dont je voudrais vous parler pourrait se présenter en fin de compte, être présenté en fin de compte d'une manière ultra simple, presque simpliste, mais tellement simple alors là, qu'elle soulève une difficulté formidable dans notre esprit tout de suite. Difficulté formidable parce que ça paraît pas vrai, parce que ça paraît impossible, et parce que ça nous ouvre devant une espèce d'abîme dans lequel nous craignons de nous avancer intellectuellement, parce que ça paraît vraiment inadmissible. Et pourtant, c'est la formulation qui est la seule à résumer dans toute sa profondeur, je crois, tout ce que peut nous dire le mystère de la croix, à savoir tout simplement que Dieu souffre. Voilà. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, c'est très simple. Mais c'est inadmissible. Ça ne marche pas. Alors, à cause de cela, ça devient tout de suite très compliqué. Parce que nous n'allons pas pouvoir nous débarrasser si facilement que ça de cette formule. Et cependant, il ne s'agit pas tellement de répondre aux objections qu'on peut faire et qui sont immédiates. Enfin, il n'y a pas besoin d'une grande philosophie, d'une grande théologie pour dire que Dieu ne peut pas souffrir, que Dieu est impassible, que Dieu est infiniment parfait, par conséquent infiniment heureux. Bon, on se doute bien de tout ça, ça va sans dire, n'est-ce pas? Mais se demander ce qu'il peut rester de vrai dans cette formulation une fois qu'on a bien maintenu tout ce qui doit être maintenu sur l'impassibilité de Dieu, c'est tout simplement se demander ce que signifie pour nous le mystère de la croix. Ça vient à dire qu'il y a un verbum crucis, il y a une parole de la croix. Cette parole a été prononcée par Dieu. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, si vous n'osez pas aller jusqu'à dire que Dieu souffre, tout en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter de dire des âneries, enfin des choses insensées, eh bien, vous n'entendez pas la profondeur du verbum crucis, de la parole de la croix. Vous n'allez pas assez loin. Et vous êtes en péril d'hérésie, d'une hérésie d'autant plus dangereuse que justement elle est beaucoup moins grossière que celle qui consiste à dire bêtement Dieu souffre. Ce qui est une hérésie, évidemment. Si je m'en tiens là, c'est inadmissible. Et pourtant, je ne peux pas échapper complètement à cette formule. Voilà, on est. Le mystère de la croix ne peut être défini de la manière suivante. Je ne peux pas dire que Dieu souffre, évidemment. Je ne peux pas dire que Dieu souffre. Ceci dit, si j'écoute le verbum crucis jusqu'au bout, je ne peux pas échapper complètement à quelque chose comme ça. Voilà, comme ça. Alors, pour mieux vous le montrer, je ne sais pas trop par quel bout prendre cette affaire-là, moi. Hein. Il y en a tellement. Il y a d'abord dès le début, dans la Genèse, peu de temps avant le drame de Noé, je crois, au moment de la tour de Babel, qui se situe, me semble-t-il, avant le drame de Noé, si mes souvenirs sont exacts, j'ai bien l'impression. Enfin, à propos de cette multiplication de l'iniquité sur la terre, tactus dolore cordis intrinsecus, n'est-ce pas? Dieu blessé, touché de douleur au plus intime de son cœur, en face de toutes les iniquités de la terre. Bon, alors, si je fais une hérésie en disant que Dieu souffre, je suis en bonne compagnie, je suis avec le Saint-Esprit. Et au fond, si on prend en effet des quantités de choses dans la Bible et dans la vie de l'Église, eh bien, il faudra dire que le Saint-Esprit est hérétique. Vous voyez, le Saint-Esprit prend à son compte finalement cette formulation. Et s'il prend à son compte cette formulation, c'est que c'est pas pour nous dire une chose inadmissible, voyez, à savoir qu'il y aurait en Dieu quelque détérioration possible, qu'il y aurait en Dieu quelque pâtir, comme disent les philosophes. Ah, le Saint-Esprit n'a pas du tout envie de nous faire croire des choses pareilles. Mais c'est que le Saint-Esprit veut nous faire entendre un mystère. Bon, bah, ça, il va falloir déjà qu'on s'arrête là-dessus, sur cette notion de mystère. La religion chrétienne est une religion où il y a des mystères et où, en fin de compte, il y a un mystère qui est le visage de Dieu que l'homme ne connaît pas. Et c'est justement toute la différence entre l'idée qu'on peut se faire de Dieu à partir des créatures, qui peut être une idée très élevée, très métaphysique, très épurée, très hindoue, si vous voulez, en respectant tout ce qu'il y a d'authentique dans la philosophie hindoue. Bon, alors ça, c'est l'idée de Dieu. Mais au-delà de l'idée de Dieu la plus métaphysique, la plus épurée et la plus spirituelle qu'on puisse se faire, il y a le mystère de Dieu. Et c'est ce mystère qui nous a été manifesté par le triple mystère de la Sainte Trinité, de l'incarnation et de la rédemption. Le mystère de l'incarnation rédemptrice du Verbe, deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors cette collection de mystères n'en fait qu'un, c'est le mystère. Bon, eh bien ce mystère, précisément parce que c'est un mystère, est ineffable. Il s'agit d'exprimer en mots humains quelque chose qui n'est pas normalement exprimable en mots humains. Et le Saint-Esprit s'est trouvé devant ce problème. Comment est-ce que je m'en fais leur faire comprendre certaines choses concernant mon visage, inconnu de toute créature, dans lequel je veux les faire entrer pour l'éternité? Alors quand évidemment ils le verront, mon visage, je n'aurai pas besoin de parler humainement, avec des mots humains. Ils verront tout, ils sauront tout en un instant, qui sera un instant éternel. Mais en attendant, il faut que je les branche sur ce visage. Voyez-vous, voilà le problème que le Saint-Esprit doit résoudre. Il faut nous brancher sur le visage mystérieux de Dieu dans l'obscurité de la foi. Comment faire pour nous brancher, pour nous mettre en relation, en contact, obscur, mais vital, mais vivant, avec ce mystère de Dieu dans l'obscurité de la foi? Alors, eh bien, le Saint-Esprit a cherché des mots, il a cherché des figures, il a cherché des paroles humaines, évidemment. Et après avoir peut-être longuement hésité, n'est-ce pas, figurons-nous cela pendant que nous y sommes, eh bien, il n'a pas trouvé de meilleur pour nous brancher sur le mystère que l'idée d'une certaine souffrance de Dieu. Et de fait, si nous restons bien fixés sur la profondeur des mots « souffrance de Dieu », ça veut dire « souffrance » mettez de l'acte pur, hein. Bon, si vous faites de la philosophie, c'est-à-dire de souffrance de celui qui ne peut connaître aucune souffrance. Bien, souffrance de la joie infinie, souffrance de l'amour infini, souffrance de la lumière infinie, souffrance de la béatitude infinie. Voilà, si vous maintenez tout ça, de façon à ce que vous n'oubliez jamais cette impassibilité inaltérable de l'intensité infinie du bonheur de Dieu qui ne peut pas être touché ni diminué si peu que ce soit, ni atteinte ni entamée si peu que ce soit, eh bien si vous prononcez le mot souffrance de cette réalité-là, vous êtes devant un mystère. Et à mon avis, vous êtes devant le mystère des mystères, c'est-à-dire vous êtes branché. Vous êtes branché sur quoi? Eh bien, en d'autres termes, sur, car tout ça est indissociable, l'amour de Dieu pour vous. Voilà. Et ça, c'est aussi difficile à avaler de penser que Dieu a de l'amour pour nous, si on mesure ce que ça veut dire, que de penser que Dieu souffre. Car si on se fait une idée correcte de Dieu, on n'a aucun moyen de comprendre que Dieu puisse aimer qui que ce soit d'autre que lui. Non pas parce que Dieu est narcissique ou enfermé en lui-même, mais précisément au contraire parce qu'il est le seul à ne pas avoir de limite. Et que l'infini ne peut aimer que l'infini. Comment voulez-vous que l'infini puisse supporter les limites de la créature? Comment voulez-vous que l'infini puisse supporter les limites que la créature est obligée d'imposer à son amour même? Ça, c'est aussi absurde à certains égards que de dire que Dieu souffre. Et cependant, c'est ça le mystère. Le mystère d'ailleurs, c'est pas que Dieu nous aime, que Dieu aime chacun d'entre nous. Ça, c'est pas la profondeur ultime du mystère. La profondeur ultime du mystère, c'est que Dieu soit fabriqué de telle sorte qu'il nous aime. C'est parce que Dieu est Dieu qu'il nous aime. Seulement, nous n'avons pas d'autre voie d'accès à ce mystère. Je vais encore vous embêter, mais c'est bien à zéro, oui. C'est maladif chez moi, sûrement. Nous n'avons pas d'autre voie d'accès à ce mystère que la méditation, mais alors concrète, vertigineuse, écrasante, du fait que Dieu nous aime. Et nous n'avons pas d'autre voie d'accès concrète à ce mystère selon lequel Dieu nous aime que la croix, signifiant qu'il souffre par nous. Voilà. Si on ne va pas jusque-là, eh bien, on est tout ce qu'on voudra, sauf chrétien. Et ça, on peut être très religieux. On peut être très adorateur. On peut être très contemplatif. On peut même être mystique, si vous voulez, d'une certaine manière. On n'est pas chrétien. Alors, tout de suite, face à ces mystères que je viens d'évoquer, et qui ne sont pas des petites choses, comme vous voyez, c'est une grosse affaire, je mets en face une hérésie qui peut nous menacer tous, plus ou moins sournoisement, et par conséquent qui peut vous menacer, puisque c'est une carmélite qui, un jour, m'en a fait l'aveu. Elle m'a dit que elle avait reçu une lumière à matine, ou à l'office des lectures, puisque c'était devenu l'office des lectures déjà, et elle a brusquement réalisé, je ne me rappelle plus ces termes exacts, mais enfin, simplement ceci, que dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la croix, le Père et le Fils étaient d'accord. Elle m'a dit, je cherche des mots dans la même chose. Je fais comme le Saint-Esprit. Elle m'a pas dit ça, enfin, elle a fait comme le Saint-Esprit. Et tous les mystiques font un peu comme le Saint-Esprit. Ils cherchent des mots, n'est-ce pas? Bon, mais c'est pas facile à trouver. Alors elle m'a dit, je cherche des mots pour exprimer ce que j'ai entrevu. Et finalement, l'expression la moins lointaine, la moins grossière, c'est une expression que j'ai trouvée dans Saint Léon le Grand, du Commune Concilium, que justement la décision de l'incarnation rédemptrice a résulté d'un Commune Concilium entre les trois, c'est-à-dire d'un consensus total, d'un accord total entre les trois et particulièrement entre le Père et le Fils. Or, ce Commune Concilium, ce consentement, cet accord parfait entre le Père et le Fils, et là, il faut y faire très attention, concerne la personne du Fils, mais dans sa totalité. Par conséquent, aussi bien en tant qu'homme qu'en tant que verbe, car c'est évidemment la même personne qui est Fils, qui est Dieu et qui est homme. Et par conséquent, il y avait entre Jésus homme, dans son humanité profonde, dans sa volonté profonde, et Jésus Dieu, un accord parfait aussi, un commune concilium. Et par l'intermédiaire donc de cette volonté du Fils en tant que Dieu qui est mesure la volonté du Fils en tant qu'homme, il y a aussi un accord parfait entre l'homme Jésus et le Père. Ils étaient complètement d'accord. Et ils ont toujours été complètement d'accord. Alors, présenté comme ça, dans une théologie un peu abstraite de l'incarnation, ça marche tout rond. Ou tout droit, comme vous voudrez. N'est-ce pas, comme sur des roulettes. Mais c'est là, elle m'a ajouté ceci que j'ai trouvé très remarquable. Elle m'a dit juste, ça m'a guéri de quelque chose. Car jusqu'à ce moment où j'ai reçu cette lumière, j'aperçus après coup que je m'étais laissé plus ou moins entamer par cette espèce d'hérésie, un peu 17e siècle, un peu janséniste, peut-être même un peu bérulle, je n'en sais rien. Je ne veux pas, aucune raison d'en vouloir à Bérulle, mais il me semble qu'il y a une espèce de climat de la prédication de la croix, peut-être au XVIIe siècle, peut-être à d'autres moments, je ne suis pas historien, je ne me risque pas là-dedans, mais je sens qu'il y avait quelque chose qu'elle précise d'ailleurs très bien, à savoir cette vue du Père s'acharnant, déversant sa colère contre le Fils sur la croix, représentant un peu l'humanité. C'est ça ? Cette perspective selon laquelle il a payé la dette, et par conséquent, il s'est mis du côté des hommes, c'est très beau, il s'est mis du côté des hommes, mais les hommes, ils ne sont pas du côté de Dieu. Dieu est donc en colère contre l'homme, et le Fils encaisse, si je peux dire, tout le poids de la colère du Père. Eh bien, c'est extrêmement dangereux de se représenter les choses ainsi, parce que on coupe Jésus-Christ en deux, parce qu'il est évident qu'en tant que Fils, il reste du côté du Père, et en tant qu'homme, là, il est comme écarté du Père, comme repoussé, rejeté par le Père, en tant qu'homme. Et ainsi, on en arrive, ce qui est très reposant pour l'intelligence, mais stérilisant pour le cœur et pour l'esprit, à laisser tout le poids de la souffrance à la seule humanité de Jésus, comme si Dieu, justement, ne participait pas du tout, n'avait rien à voir avec cette souffrance. Vous comprenez ? C'est la souffrance des pécheurs qui sont exposés à la colère de Dieu. Dieu, lui, est dans la béatitude. Le Fils est dans la béatitude, mais l'homme est plongé dans la souffrance venant de l'irritation divine. Bon, ça, c'est pas dilatant, et puis ça n'est pas mystérieux. C'est mystérieux si on veut, mais enfin, est-ce chrétien ? C'est toujours à ça qu'il faut en venir. C'est pas du tout, en tous les cas, ce que suggère l'Évangile. Père, je sais que tu m'accordes tout ce que je demande. Ah, et même alors qu'on est obligé, les prédicateurs qui faisaient ça étaient obligés d'imaginer que pendant quelques instants, le Père s'arrêtait en quelque sorte d'aimer Jésus homme, n'est-ce pas, pour cogner dessus. Et le reste du temps, alors. Le reste du temps, Jésus-Christ ne souffrait pas des péchés, et s'il souffrait des péchés, alors il était à tout instant en proie à la colère du Père, alors que manifestement, encore une fois, je ne suis jamais seul, le Père est toujours avec moi, enfin rien ne permet dans la tradition chrétienne de porter la moindre brèche au commune concilium. Mais alors pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Car j'espère que ça ne vous tente pas trop de tomber dans de pareilles hérésies, mais c'est parce que je voudrais vous faire comprendre qu'il faut choisir. Ou bien la croix, c'est la souffrance d'un homme qui se trouve être Dieu, en plus, mais dont la souffrance est strictement réservée à l'homme en tant qu'homme. Et elle ne signifie rien d'autre que le fait que Dieu fait souffrir l'homme. Est-ce que vous voulez que ça veuille dire donc ? Hein ? L'innocent, comme dit le père de Guillou, et à très juste titre, alors l'innocent, l'homme innocent souffre, oui, mais c'est tout, Dieu ne souffre pas. Vous comprenez ? Ou bien vous dites ça. Ou bien vous arrêtez la souffrance à la frontière de l'humanité. Et alors, inévitablement, vous êtes obligé de vous représenter Dieu comme au moins indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire, à sa propre souffrance, s'il s'agit du Verbe, à la souffrance de ton Fils en tant qu'homme, s'il s'agit du Père. Indifférent puisqu'impassible. L'homme souffre, mais Dieu ne souffre pas. Par conséquent, Dieu est au-delà de tout ça, et ça le regarde à peine. Alors, ou bien vous tombez là-dedans, sans aller jusqu'à la colère, ou bien vous dites, ah, attention, il y a la souffrance du cœur du Christ, il y a la souffrance du corps du Christ, et c'est déjà un abîme, et quel abîme ? Mais cet abîme est une petite lucarne qui est ouverte pour que nous puissions plonger notre regard dans l'obscurité de la foi sur un abîme plus profond encore et plus impénétrable, et qui est le mystère de Dieu dont la croix nous dit quelque chose. Vous voyez, la croix nous parle de Dieu, et non pas seulement de cet homme Jésus qui se trouve être Dieu. C'est ça que je voudrais, faut faire très attention. Il n'est pas question de mélanger les natures, n'est-ce pas ? Je sais très bien que l'homme n'est pas Dieu et Dieu n'est pas l'homme, que l'unité ne se fait que dans la personne. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir si cette situation dans laquelle Dieu a permis que son Fils en tant qu'homme soit plongé, à savoir la croix, signifie quelque chose de ce que Dieu est. Or, là nous sommes à la croisée des chemins. Est-ce que cet homme, Jésus, sur la croix, Dieu le connaît ou est-ce qu'il ne le connaît pas? Évidemment, vous êtes bien obligé de dire qu'il le connaît. Est-ce qu'il l'aime ou est-ce qu'il ne l'aime pas? C'est déjà bien extraordinaire de dire qu'il l'aime, car à ce moment-là, il aime tout de même quelque chose en dehors de lui, à savoir l'humanité du Verbe, qui n'est pas seulement Dieu, qui est Dieu en personne, mais qui n'est pas Dieu en nature, justement. Ne faisons pas de monophysisme. Eh bien, s'il aime, et infiniment, son propre fils souffrant, comment pouvez-vous dire qu'il n'en souffre pas? C'est pas sérieux. Et si à ce moment-là vous dites, oui, mais je ne peux pas comprendre que Dieu souffre, je vous réponds d'accord, alors c'est un mystère. Mais c'est un mystère, justement, faites attention à ne pas ravaler ce mystère au niveau de vos capacités rationnelles, parce que ce ne serait plus un mystère. Et si vous voulez un coup de pouce qui sera offert aux théologiens par le cœur, bien je vous propose une théologienne inattendue qui peut venir à notre rescousse en cette affaire, c'est Madame de Sévigné. Puisque les théologiens risquent d'étouffer tout ça, comme dit Thérèse d'Avila dans l'espace d'un credo, appelons cette femme de cœur, qu'était Madame de Sévigné, à notre secours, qui comprenait les choses avec le cœur, selon ce que dit Paul, que seul l'esprit de l'homme scrute les profondeurs de l'homme, et seul peut-être l'esprit de la femme scrute les profondeurs de l'amour, au niveau de l'homme. C'est déjà pas mal. Et les profondeurs de l'amour, au niveau de Dieu, sont tout de même en mieux. Les profondeurs de l'amour au niveau de l'homme. Eh bien, Madame de Sévigné disait à sa fille qui avait mal à la gorge, au gosier, j'ai mal à votre gosier. Je ne pense pas que ce soit hérétique de dire que Dieu a mal à notre âme et qu'il avait mal à Jésus-Christ. Qu'il avait mal à Jésus en tant qu'homme. Je ne pense pas. Et à ce moment-là, si on admet ça, si on ne triche pas avec ça, alors notre question se retourne et redevient un peu la question de Job, mais creusée et enrichie. Parce que si Dieu répond à toutes nos questions sur la souffrance, le mal, les ténèbres, la croix, s'il nous dit « Regarde », regarde le Christ, regarde, il n'a pas épargné son propre fils, c'est ça. Il n'a pas épargné son propre fils. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai subi. Et comprends que c'est toi qui m'as mis dans cet état par la manière dont tu réponds, ou plutôt dont tu ne réponds pas à mon amour. Comprends que la révélation chrétienne, le mystère chrétien, ça n'est pas tellement, comme on dit aujourd'hui, la situation existentielle de l'homme en face de Dieu. Mais s'il faut employer un jargon de ce genre, qui peut d'ailleurs avoir son utilité, puisque justement c'est pour ça que je l'emploie, eh bien c'est plutôt la situation existentielle de Dieu en face de l'homme. Eh bien la situation existentielle de Dieu en face de l'homme, si tu veux savoir ce que c'est, et voilà ma parole et ma révélation, regarde le crucifix, regarde le crucifié, voilà ce que je suis face à toi. Plus précisément, voilà ce que mon amour est face à ton non-amour. Voilà. Non pas que ça me gêne personnellement, ou tripersonnellement, que tu ne répondes pas à mon amour, ça ne me gêne pas pour moi, mais ça me gêne pour toi. Parce que je t'aime, et c'est ton propre malheur de ne pas m'aimer qui me crucifie. Ce que le Christ a dit à Catherine de Sienne, très explicitement quand il lui a dit « Ne t'imagine pas que ce sont les clous qui m'ont retenu sur la croix. » Ce n'était pas difficile de les faire sauter. Et les 12 légions d'or étaient là, sans que j'avais besoin des apôtres même, qui voulaient empêcher tout ça. Mais c'est l'amour. Et l'amour, quel amour ? Ben, l'amour pour toi. L'amour pour celle qui n'aime pas. Car s'il lui a dit « Je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas », il pouvait lui dire aussi « Je suis celui qui aime, tu es celle qui n'aime pas ». Et celui qui aime, aime celle qui n'aime pas. Et cette équation veut dire la croix. Et si on prend toute l'histoire du peuple juif comme une propédeutique, c'est-à-dire une préparation au mystère du Nouveau Testament, et qui nous aide à savoir, justement, qui nous offre la clé de ce coffre-fort, à combinaison multiple et mystérieuse, qui s'appelle le mystère de la croix, le livre scellé, justement, de l'Apocalypse, si justement nous espérons que dans l'Ancien Testament nous trouvons la clé qui nous permettra d'ouvrir ce livre, ben nous voyons que c'est bien dans cette ligne que ça se situe, car donc d'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, Dieu clame sa propre situation existentielle en face de ce peuple à la lucrède et qui n'y comprend rien, et comme il le disait encore Jésus dans l'évangile de ce midi, de ce matin, jusqu'à quand devrais-je demeurer parmi vous, n'est-ce pas ? Et le cri dont je vous ai peut-être parlé déjà, je ne sais plus trop, parce que vous savez, je confonds un peu les différentes prédications que je viens de faire, mais de Dieu à Moïse, disant à Moïse, allez, viens, on va les laisser tomber, et on va se faire un peuple, tous les deux, qui soit quelqu'un de bien, qui ne nous fasse pas souffrir, c'est la même chose, qui ne nous fasse plus souffrir, ben, c'est déjà ça. Et Moïse, justement, faisant le Saint-Esprit, animé par le Saint-Esprit et offrant à Dieu la réponse la plus profonde en lui disant « Mais non, il ne faut pas faire ça, on ne peut pas les abandonner, il vaut mieux supporter de continuer à être crucifié par eux. Car il y va de ta gloire, dit-il à Dieu, de la gloire de ton amour pour ce peuple. Tu ne l'as pas tiré de là pour l'abandonner. Même s'il fabrique le veau d'or, même s'il endurcit son cœur dans le désert, c'est pas... Il vaut mieux souffrir, oui. Et toute la plainte des prophètes que le Christ a repris, Jérusalem, toi qui lapides les prophètes, mais c'est cela, ce sont les impropères. Oh mon peuple, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me donnes à boire du fiel, du vinaigre et toutes ces magnifiques impropères du Vendredi Saint, qui je crois étaient sont dans Osée. Et enfin, tout le cri des prophètes d'un bout à l'autre, c'est ça. J'ai planté une vigne. J'ai attendu qu'elle me donne, et puis voilà, du raisin, et elle me donne du verjus, le figuier stérile. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est vraiment la psychologie du Père. Et alors, c'est une chose que, au fond, sur laquelle, en effet, on pourrait presque conclure, mais c'est une conclusion qui n'a pas de fin. Au fond, la parabole de l'enfant prodigue est extraordinaire à ce sujet-là. Parce que vous avez ces trois personnages, vous avez donc le père, vous avez le fils prodigue, vous avez l'aîné. Bon. Or, l'aîné, qu'est-ce qu'il voudrait, lui, l'aîné ? Eh bien, il voudrait une situation normale. Il voudrait que le fils, son frère, rende justice à son père. Bon, ça... Autrement dit, l'aîné aime son père. Oui, c'est vrai. Et la preuve, c'est que le père lui dit, mon fils, mais tout ce qui est à moi est à toi. Nous nous entendons bien. Nous nous aimons. Tu le sais bien. Bon. Seulement le père, alors l'enfant prodigue lui pêche. Bon, d'accord. Il pêche. Grosse histoire. N'insistons pas, mettons-nous à la place du père, le père en est malade. Tactus dolore cordis intrinsecus. Le père ne s'y fait pas. Et tous les matins, il va voir si l'enfant prodigue revient. Et l'enfant prodigue ne revient pas. Le fils aîné, il ne va pas voir. Il est parti. Il n'a que ce qu'il mérite. Le fils aîné, il aime son frère et il aime son père. Mais enfin, il y a des limites. Vous comprenez ? Ben oui, bien sûr, il y a des limites, c'est des créatures. Il y a des limites. Mais le père, lui, ne connaît pas de limites, précisément parce qu'il est Dieu. Il est ici la figure de Dieu. Et que Dieu, ne connaissant pas de limites, ne met pas de limites à son amour. Et que ne mettant pas de limites à son amour, il ne se résigne pas du tout au départ du fils prodigue. Il le respecte. Il ne l'enferme pas. Il lui ouvre les portes tout grand. Il lui dit, tu peux partir. Mais il lui dit pas, tu peux partir sur le tour du fils aîné. Mais d'ailleurs, tu peux partir. J'ai pas besoin de toi. Il lui dit, tu peux partir parce que tu es libre. Parce que je t'aime, tu peux partir. Mais parce que je t'aime, je ne m'en remettrai pas. Tous les matins, tous les soirs, j'irai voir en haut de la colline si tu reviens. Et à tout instant, mon cœur sera crucifié de miséricorde. Crucifié à cause de toi, parce que je sais bien que tu vas manger la nourriture des pourceaux. Encore une fois, justement, c'est là où il faut bien respecter la perspective de la parabole. Un père de ce monde peut être privé par la disparition de son fils. Dieu non, Dieu n'est privé de rien. Mais un père de ce monde a aussi pitié de la situation de son fils. Et alors Dieu, oui, et bien plus qu'un père de ce monde. Voyez-vous, c'est ça. Le père n'a pas mal à lui, dans le cas de Dieu. Ça ne le gêne, ça ne le prive de rien, la disparition du fils prodigue. Mais il voit la détresse dans laquelle il est plongé, et alors il est malade de cela. Il est malade de cela. C'est le mystère de Dieu. Et alors, discussion avec le fils aîné, pris en tant qu'homme, alors justement. Le père lui dit, tu ne peux pas comprendre ce que j'éprouve pour ton frère. Mais veux-tu accepter de participer un peu à quelque chose de ce que j'éprouve pour ton frère? Et alors, transposez bien le dialogue entre Dieu et cette créature humaine qu'est Jésus. Voilà le commune concilium. Le Père disant à Jésus en tant qu'homme, ou le Verbe disant, se disant à lui-même en tant qu'homme, tu ne peux pas comprendre ce que moi, Dieu, j'éprouve face à la misère des pécheurs, mais acceptes-tu que je fasse peser sur toi quelque chose, non pas de la misère des pécheurs, oh non, non, mais de ce que j'éprouve, moi le Père, moi le Verbe, moi l'amour infini, face à cette folie et à cette détresse et à ce malheur des pécheurs, acceptes-tu que quelque chose de ma miséricorde passe en toi? Et bien entendu, le fils aîné, dans le cas de Jésus, répond oui, en plénitude, et il est immédiatement crucifié. Voyez-vous, ce qui crucifie Jésus-Christ, c'est la miséricorde. C'est la souffrance même de Dieu. Cette souffrance de Dieu qui en Dieu n'est pas souffrance, mais qui est mystère. En Jésus-Christ devient souffrance et mystère. Mais vraiment souffrance. Mais pas n'importe quelle souffrance. C'est ce que je vous disais ce matin. La croix n'est pas n'importe quelle souffrance. C'est cette souffrance humaine qui est un reflet de la souffrance de Dieu, qui elle-même n'est pas une souffrance, mais purement et simplement le bouleversement des entrailles de la miséricorde en face de la détresse humaine. Alors, tout ça est extraordinaire. Tout ça est écrasant et nous rend muets d'adoration devant une pareille folie, et de la part de Dieu, et de la part du fils humain de Dieu, qui accepte de jouer un jeu pareil. Mais malgré tout, nous pouvons difficilement éteindre une question qui n'aura pas de réponse ici-bas, je tiens à vous le dire, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle s'éteigne, au contraire. C'est une question que Dieu souhaite que nous laissions se développer en nous jusqu'à la mort, usque in finem. Et c'est une question très dominicaine, en fin de compte. Remarquez, c'est pas tout à fait la question de Saint-Dominique. La question de Saint-Dominique, c'est bien ce que je viens de dire, c'est exactement ce que je viens de dire. Que deviendront les pécheurs? Mais ce que deviendront les pécheurs, il faut comprendre que jamais Saint-Dominique n'aurait pu le crier si le Saint-Esprit ne le lui avait donné. Donc quand Dominique dit que deviendront les pécheurs, il accepte de participer au cri du Père, que deviendra ton frère. Et c'est Dominique est le frère aîné, parfait, lui, alors, selon le cœur de Dieu. Et il est tellement parfait que c'est justement, là, le père est heureux quand c'est le fils aîné qui peut prendre l'initiative apparente de la folie de la miséricorde du père. Et le fils, si c'est le fils aîné qui dit à son père, mais que deviendra mon frère? Alors là, le père est, si j'ose dire, heureux de voir que le fils aîné comprend ses entrailles de père et qu'il partage sa folie de miséricorde. Et à ce moment-là, il joue ce jeu étrange. Alors, à son tour, c'est ça qui est extraordinaire dans tous les dialogues déjà de la Bible et dans le dialogue des saints de Saint-Dominique, c'est que le dialogue se retourne, c'est-à-dire que le fils a les entrailles du père et le père a l'air d'avoir les entrailles du fils aîné. Il dit non, je ne lui ferai pas miséricorde parce que, justement, il est trop heureux de se laisser attendrir par l'insistance du fils qui prend toute la place de la folie miséricordieuse du père et que lui dit non, mais je sais très bien, comme la cananéenne le sentait de Jésus, je sais très bien que tu n'es pas comme ça et que tu ne vas pas pouvoir les laisser périr comme ça. Si, les laisser périr, non. Voilà le dialogue extraordinaire. Vous voyez, dans la parabole de l'enfant prodigue, non, c'est pas ça. Le fils aîné comprend rien, ou pas grand chose. Hein, c'est le père qui comprend tout. Mais justement, l'esprit du père, une fois qu'il est donné au fils aîné, devient là. C'est la folie du père qui devient la folie du fils aîné, et c'est le fils aîné qui exige du père la miséricorde. Et c'est ça le cri de Saint Dominique. Que deviendront les pécheurs? Et c'est ça le cri de Jésus-Christ. Alors, la question que je vous disais que nous ne pouvons pas ne pas poser, qui n'a pas de réponse, c'est de dire à Dieu, mais enfin, pourquoi est-ce que vous jouez à ce jeu? C'est très beau, évidemment, c'est très beau, mais c'est quand même très très lourd, très écrasant pour nous, et aussi apparemment pour vous. Pourquoi jouez-vous à ce jeu? La sagesse aime à jouer avec les enfants des hommes, mais quel jeu! Et c'est là où je dis qu'il n'y a pas de réponse, et qu'il ne doit pas y avoir de réponse, il y en aura une sur la terre. La seule réponse, c'est parce que je suis comme ça. Ah oui, évidemment. Et tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir ce que je suis, ou tu ne peux pas savoir, comme il disait à Consumata, ce qui fait la gloire de mon Père. Tu ne sais pas ce que veut dire ma gloire, tu ne sais pas ce que veut dire mon mystère, tu ne sais pas ce que veut dire ma miséricorde. Mais il est bon que tu m'interroges, et que tu me demandes, mais pourquoi faites-vous cela? Pourquoi êtes-vous si fou? Je suis heureux que tu me le demandes, parce que plus tu me le demandes, moins tu comprends, et plus tu t'enfonces dans l'obscurité écrasante de ce mystère qui est le prélude à la gloire. Je suis content que tu me poses cette question et qu'elle ne reçoive pas de réponse sur la terre, parce qu'elle te prépare à recevoir la réponse éternelle de la lumière du Verbe. Là, tu verras la folie du Saint-Esprit quand tu verras le Saint-Esprit face à face. Mais pour pouvoir mériter effectivement de voir ma folie ou mon esprit face à face, il faut beaucoup m'interroger à ce sujet, et peut-être il faut beaucoup souffrir de ne pas comprendre. Car enfin, apparemment, nous pensons que Dieu pourrait nous aimer beaucoup plus raisonnablement en nous mettant tout de suite dans la béatitude, par exemple, première solution. En ne nous offrant pas la béatitude surnaturelle, deuxième solution, et en nous laissant impeccables, si je peux dire, comme des anges, et d'un bonheur purement naturel. Enfin, il y aurait toutes sortes de solutions possibles qui n'impliqueraient pas la folie de la croix. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que si Dieu pouvait être tenté par ces solutions que nous imaginons, qui seraient tout de même plus raisonnables à nos yeux, à ce moment-là, il serait tenté par quelque chose de beaucoup plus radical, et qui, moi, je ne comprends pas, ou qui ne cède pas à cette tentation, et qui consiste à ne rien créer du tout. Ça, ce serait beaucoup plus radical, en effet. Ce serait beaucoup mieux, à tous les points de vue, pour tout le monde, il n'y aurait pas de tâche dans l'univers. S'il a commis la folie de créer, on peut s'attendre au pire. Non pas de la part de la créature, mais de sa part à lui. Parce que qu'est-ce qu'il a dans le cœur pour faire une folie pareille? Il n'y a que cette folie de la création aboutisse à la folie de la croix. Au fond, en fin de compte, dans la logique du mystère, moi, je trouve ça normal. Alors, nous avons quelqu'un qui nous a été donné, vous le savez, pour nous aider à supporter ces choses et à nous offrir un circuit de réfrigération pour que ça ne brûle pas trop, c'est la Sainte Vierge, parce que c'est justement elle qui sait à la fois questionner et ne pas questionner. Questionner par amour et ne pas questionner par curiosité. Alors, demandez-lui qu'elle creuse en vous ces questions, mais ces questions qui sont des contemplations. La vie contemplative, la vraie vie contemplative, c'est une question de plus en plus déchirante, de plus en plus brûlante. C'est la question de saint Thomas, mais qu'est-ce que Dieu ? Sous-entendu, pour faire des choses pareilles. Et que deviendront les pécheurs ? Est-ce qu'ils reviennent au même ? C'est la même question. À quoi joue la sagesse divine ? À quoi joues-tu ? Mais qui es-tu pour jouer à ce jeu ? Voilà la question dont il faut demander qu'elle nous laboure le cœur, comme elle a pu labourer le cœur de Thérèse de l'Enfant Jésus, et plus encore celui de Marie, mais à la manière absolument confiante, et extraordinairement confiante, qui vient précisément du Saint-Esprit, et que la Sainte Vierge nous enseigne.